deux pas de chez toi.
Voir qu'on redonne des sourires, ça fait toujours plaisir.
Votre magazine de reportages, de témoignages, à la découverte de Reims, ses habitants, ses habitantes et de ses alentours.
Faire ce qu'on veut, quand on veut.
On rencontre des personnes différentes, très différentes les unes des autres. Et c'est génial aussi.
À deux pas de chez toi.
Pour qu'ensemble nous puissions créer un nouveau monde dans lequel les femmes sont plus solidaires, plus unies, pour créer un monde où règne l'amour, la solidarité, l'entraide.
Prenez le temps d'explorer ce qui se fait sur notre territoire avec Radio Primitive. Bonjour et bienvenue dans À deux pas de chez toi sur Radio Primitive. Cette semaine, il va y avoir du sport. Nous vous emmenons au premier rendez-vous des étapes rémoises. Mais avant cela, c'est à la Comédie de Reims que nous sommes allés la semaine passée. Radio Primitive vous emmène à la Journée des aidants qui se passait à la Comédie de Reims le 17 octobre dernier. Une journée pensée pour obtenir des informations, savoir vers qui les aidants peuvent se tourner en local. Mon souhait avec ce reportage, c'était de vous transmettre les informations que j'ai pu récolter auprès de trois structures participantes. À mon arrivée à la Comédie, j'ai rencontré d'abord le Club Famille, spécialisé dans l'accompagnement des jeunes aidants.
Et ben donc du coup, moi je m'appelle Mélie Boumaraf, je suis en alternance au Club Famille. Je suis en dernière année de master intervention et développement social et je suis aussi chargé de la coordination du projet ambassadeur en santé mentale sur Chalon en Champagne. Donc je suis en bimission entre et le Club Famille et Chalon. Donc pour présenter le Club Famille, donc on est un dispositif de l'association L'Amitié où en fait on est basé à côté de la gare sur Reims et on va accompagner des familles atteintes de troubles psychiques ou qui vivent un moment compliqué. Ce qu'on entend par moment compliqué, c'est que ça peut être aussi une dépression postpartum ou du mal à gérer sa parentalité pour x ou y raison. Et donc on va pouvoir dans un premier temps accueillir les nouveaux arrivants, les personnes qui viennent d'arriver dans la structure. On va faire des entretiens individuels avec ces personnes. Et suite à ça, en fait, si on voit que c'est le genre de public qu'on accompagne, et ben la personne pourra venir du lundi au samedi dans notre structure, donc samedi inclus, où on va proposer des activités d'accompagnement à la parentalité, aussi dans le rôle d'aidant et de jeune aidant. Et on va aussi avoir des activités dites de répit, où on va proposer des jeux de société, du karaoké, etc. Toujours dans cette même idée de créer du lien, de la cohésion entre les personnes et aussi évidemment de pouvoir orienter les personnes dans les dispositifs qui existent sur le territoire. Les difficultés pour les aidants en fait que moi j'ai pu voir ou en tout cas identifier, c'est le fait que ce sont des personnes qui ont du mal à jongler notamment dans l'énergie, dans la temporalité. Donc c'est aussi de mettre des mots en fait sur ce que les personnes vivent. C'est aussi pouvoir les rassurer, leur dire que c'est ok en fait d'être à des moments surpassés, submergés en fait, et que essayer de pouvoir les orienter, comment on organise sa journée, comment on peut trouver notamment des moments de répit en fait, s'autoriser à faire des choses aussi sans la personne qu'on peut aider en fait, c'est aussi très important, rencontrer aussi d'autres personnes, enfin ne pas rester dans ce rôle là en fait et qui peut finalement perdre les dents notamment dans l'accompagnement qu'il propose à la personne qui l'entoure, quoi.
Est-ce qu'on t'a déjà parlé de l'incidence que ça a sur le milieu scolaire, par exemple, parce que les jeunes aidants, ils continuent certainement d'aller à l'école en même temps qu'ils accompagnent leurs proches. Concrètement, il y a des répercussions.
Ça peut avoir des répercussions sur la scolarité et aussi sur le travail en fait pour les jeunes adultes, parce que on parle de jeunes, hein, mais du coup ça peut être de 15 à 25 ans, même plus. Ça va demander en fait à ces personnes de devoir s'organiser en fait, à des moments mettre leur vie de côté pour aider en fait leurs proches.
À partir de cette discussion que vous venez d'entendre avec le Club Famille et leur angle spécifique auprès des jeunes aidants, j'ai poursuivi ma découverte des stands de structures qui peuvent apporter des réponses concrètes aux aidants. Et je vous propose que l'on se concentre maintenant sur les aidants avec une activité professionnelle avec d'autres spécialistes.
Moi, je suis le docteur Anne Malouli, je suis médecin généraliste et gériatre et depuis 10 ans, je suis entrepreneur social. En fait, j'ai constaté dans ma pratique médicale un besoin non couvert sur l'accompagnement des aidants et j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat pour répondre à ce besoin non couvert. Alors en fait, moi, je ne travaille pas en direct avec les aidants. Je travaille avec des structures qui ont des bénéficiaires aidants et avec lesquelles soit j'apporte des outils d'accompagnement déjà tout faits comme des conférences, des programmes d'accompagnement, soit je co-construis des offres de services avec ces structures-là. Je forme aussi leurs professionnels et les bénévoles. Et puis, l'autre partie de mon activité, c'est d'intervenir au sein des entreprises qui veulent mettre en place une politique inclusive pour leurs salariés aidants. Et donc, sur cette partie-là, j'interviens avec Hélène, qui se cache, mais qui est juste à côté de moi, qui est juriste en droit social. Et donc, on intervient toutes les deux dans les entreprises pour accompagner ces entreprises sur leur politique d'inclusion.
Justement, je suis désolée, mais c'est la partie qui m'intéresse parce que quand un aidant est actif, je pense que ce qui est compliqué, c'est de jongler entre son activité professionnelle et la personne qu'elle aide, quoi, cette personne. Et quand un aidant est jeune, bah, c'est un peu la même chose avec l'école. Est-ce qu'il existe dans le monde professionnel des recours pour aménager son temps de travail, pour avoir des aides quand on est aidant ?
Alors en fait, il existe un certain nombre de dispositifs légaux déjà en place et malheureusement, ils sont peu connus par les institutions ou les entreprises. Mais il faut savoir que par exemple, le Code du travail prévoit déjà à la fois des congés spécifiques ou des ouvertures de droits aux aménagements de temps. Donc en fait, il y a déjà des dispositifs qui existent et les entreprises peuvent également aller plus loin et proposer des aménagements spécifiques à leur structure et c'est là qu'on peut intervenir avec Altémis pour les aider à structurer la nouvelle organisation qu'ils vont proposer à leurs salariés aidants.
Et ça se fait beaucoup ? Les entreprises sont demandeuses quand même, vous le constatez, vous, dans votre travail ?
Oui, alors en fait, cette partie-là de l'activité, elle a beaucoup augmenté depuis 2023. Nous, ça fait depuis 2019 qu'on propose ce type d'accompagnement. Les premières touches qu'on avait étaient assez positives, mais après, il y a eu le Covid qui a quand même mis un gros coup de frein à tout ça. Les entreprises, enfin, surtout les services RH, nous disaient bah, « là, c'est plus trop la priorité ». Et depuis 2023, on est vraiment fort sollicité par les entreprises qui se rendent compte que ça devient une vraie réalité. Hein. Aujourd'hui, en 2023, c'est un salarié sur cinq et on sait que d'ici 2030, avec le vieillissement de la population, ça sera un actif sur quatre. Donc vous voyez que c'est quand même un vrai sujet d'actualité. Et je rebondis sur ce que vous disiez sur les étudiants ou les jeunes aidants. En fait, il faut savoir qu'un mineur de 5 à 18 ans sur 20 est un aidant. Et donc c'est important aussi d'identifier les jeunes aidants, les aidants étudiants, les lycéens, etc. Parce que par exemple, pour ces aidants-là, il y a des aménagements possibles, notamment dans leurs études. En fait, on peut faire reconnaître le statut d'étudiant aidant, un petit peu comme le statut d'étudiant handicapé, qui peut permettre de mettre en place des aménagements d'horaires ou enfin, des aménagements d'études pour ces étudiants-là.
Ils peuvent même avoir des points de bourse supplémentaires quand ils sont identifiés en tant qu'étudiants aidants.
Parce que c'est pas trop compliqué les démarches. Moi, je me mets à la place de peut-être un étudiant qui a déjà une personne à s'occuper. L'administratif, c'est un langage, quoi. Faut le maîtriser, on peut se faire accompagner. Il y a des recours aussi qui existent.
Alors, au niveau des étudiants aidants, simplement, ça peut déjà être identifié au niveau du dossier du CROUS. En fait, il y a une case à cocher en indiquant qu'on est en situation d'aidance et automatiquement, ensuite, le dossier va être étudié dans ce sens-là. Donc, pour le coup, pour les étudiants aidants, la démarche est assez simple et rentre dans le dispositif, notamment classique des boursiers.
Moi, je pense qu'il y a aussi un des freins qui est déjà de s'auto-identifier en tant qu'aidant, ce qui n'est pas toujours bien simple parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Non mais moi, ce que je fais, ce n'est pas vraiment être aidant parce que ce que je fais, c'est normal, c'est mon parent, c'est mon enfant, c'est mon frère ou ma sœur. » Donc il y a déjà ce premier levier-là à activer pour se dire « Ah oui, bah, en fait, ce que je vis, c'est une situation quand même qui n'est pas celle de tout le monde. » Et de se dire bah, « Peut-être que j'ai des droits spécifiques parce que je vis une situation un peu particulière. » Et pour les aidants en entreprise, ce qui peut être un frein aussi, c'est de se dire « Oui, mais si j'en parle à mon employeur, quelles répercussions ça va avoir sur ma carrière professionnelle ?» Et ça, c'est pareil. En fait, quand on intervient en entreprise, le fait d'accompagner les entreprises sur une politique inclusive, ça permet aussi de libérer la parole dans l'entreprise, de montrer que l'entreprise est plutôt bienveillante par rapport à ça et de montrer aux employés enfin aux salariés, qu'ils ont tout intérêt en fait à se déclarer aidant pour pouvoir accéder à certains droits, parce que enfin, quand on ne se déclare pas aidant, en fait le service RH il peut absolument pas savoir que vous êtes dans telle situation et que vous pouvez activer des droits qui sont déjà existants dans le code du travail. Donc c'est important de pouvoir dire oui, enfin manifestez-vous en tant qu'aidant, nous on a déjà réfléchi à des solutions et on met en place les solutions qui existent déjà dans le code du travail. Donc ça aussi cette vertu là de libérer la parole dans les entreprises.
Bah, moi je me dis, si ça m'arrivait, j'aurais du mal à quantifier à partir de quel moment on est aidant, quoi. Est-ce que quand on emmène sa grand-mère à ses rendez-vous médicaux le mercredi après-midi, ça suffit? Est-ce que faut un soutien quotidien?
Alors en fait, dans la définition qui est donnée par la loi d'adaptation de la société du vieillissement au vieillissement de 2015, ce qui est dit, c'est qu'un aidant, c'est une personne de l'entourage proche de la personne aidée, mais ce n'est pas forcément quelqu'un de la famille, hein, ça peut être un ami, ça peut être un voisin, qui accompagne cette personne de façon régulière et fréquente pour des actes de la vie quotidienne. Ce qu'il faut aussi, c'est avoir un lien étroit et stable avec la personne accompagnée. Hein. Donc par exemple, si je rencontre une dame dans la rue qui a du mal à porter ses cabas et que je lui donne un coup de main, je suis pas un aidant. Mais par contre, si régulièrement je vais voir ma grand-mère et que je fais le taxi pour l'emmener chez le médecin, oui, je suis déjà aidant. Ça veut pas dire que tout de suite je vais avoir besoin d'aide moi-même pour plein de choses, mais je suis déjà en situation d'aidant. Et après, en fonction du niveau d'aide que j'apporte, ben après le niveau de réponse en face des solutions qu'on va apporter diffère, parce que ben le niveau d'aide que j'apporte moi peut être plus ou moins fatigant, être plus ou moins stressant, et donc les réponses sont aussi à adapter à chaque situation. Mais oui, quand j'aide régulièrement comme ça ma grand-mère pour l'emmener chez le médecin, je suis déjà un aidant. De la même façon, il y a quelque chose qui marche assez souvent quand je fais des présentations, où j'explique, si je suis une maman qui s'est mise à temps partiel pour accompagner son enfant qui a un trouble 10 ou un TDAH, bah oui, je suis une maman aidante en fait, parce que ça c'est pas la maternité de toutes les mamans. Donc des fois les mamans se disent, non mais ça, enfin c'est un petit handicap et c'est quand même mon rôle de maman. Ben non, vous êtes une maman aidante. Enfin oui, c'est peut-être votre rôle de maman, mais enfin vous vivez quelque chose de particulier, et ça c'est pas non plus, enfin voilà, c'est pas normal en fait.
L'interlocuteur privilégié, c'est les assistantes sociales, le médecin. Vers qui on peut se tourner?
Alors, il faut savoir qu'il y a quand même... Alors, les médecins, enfin là, je prends ma casquette de médecin, ils ne sont pas toujours hyper bien formés sur ce sujet-là. Donc, il y en a certains qui sont un peu sensibilisés, d'autres qui ne vont pas être très, très bons pour orienter. Par contre, sur le territoire et puis un peu partout en France, on a quand même des services qui font un peu office de guichet unique, hein, notamment, par exemple, pour les personnes âgées, on a les CLIC. Hein, on a la chance, hein, sur la Marne, d'avoir tout le territoire qui est couvert par des CLIC. Donc, en fonction du lieu d'habitation où on est, on peut avoir des informations sur tout ce qui concerne les personnes de plus de 60 ans. Donc il suffit d'aller se rapprocher de son CLIC de secteur pour avoir ces informations. Si on ne sait pas quel est le CLIC de secteur, ben on va dans sa mairie et les CCAS, ça vous verrez orienté vers ces CLIC. Un CLIC, ça veut dire Centre local d'information et de coordination gérontologique. Ne me demandez pas qui est-ce qui a trouvé cet acronyme-là, mais enfin voilà, comme d'habitude, on est très fort en France. Et puis pour tout ce qui concerne le champ du handicap, par exemple, on a la MDPH et puis aussi la plateforme de répit handicap qui sont des portes d'entrée où on peut trouver de l'information.
Anne Malouli nous parlait des recours pour les aidants et les employeurs. Radio Primitive l'a rencontrée à la journée des aidants organisée le vendredi 17 octobre dernier à la Comédie de Reims. Nous allons marquer une petite pause musicale et reviendrons sur ce sujet avec cette fois-ci des réponses pour les aidants, en majorité assez âgés, qui accompagnent les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Mais avant cela, Marvin Gaye nous chante « I'll take care of you ». Radio Primitive vous rapporte des informations de la journée des aidants qui était organisée par la ville de Reims le 17 octobre dernier. Après avoir été chercher des ressources utiles pour les jeunes aidants ainsi que les aidants actifs et auprès des entreprises, nous nous tournons désormais vers un autre public avec France Alzheimer.
Nous sommes des associations familiales, donc on est là pour aider les familles qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, parce qu'il y a d'autres formes de la maladie d'Alzheimer. Et on est là pour aider les familles parce que c'est vraiment un bouleversement dans la vie. Hein. C'est très difficile sur le plan affectif, très difficile sur le plan matériel. C'est des comportements du malade qu'on ne comprend pas. Des réactions du malade qui peuvent être imprévisibles. Et puis, il y a un certain nombre de choses à anticiper. Comment je fais pour préserver sa sécurité dans le logement? Il y a peut-être des choses à aménager. Par exemple, remplacer la baignoire par une douche. Ça peut être faire attention au risque de chute. Ça va être des problèmes de nutrition que peut rencontrer le malade parce qu'il perd de l'appétit et donc il perd du poids. Ça va être des difficultés avec la famille qui peut ne pas comprendre les réactions des uns et des autres. Et donc on est là, nous, pour les aider. Alors qu'est-ce qu'on propose aux aidants? Déjà des entretiens, on fait un entretien avec eux, en général ça dure une heure, pour connaître la situation, évaluer, évoquer avec eux un certain nombre de pistes en fonction de la situation qu'ils rencontrent, leur donner de la documentation. Nous faisons des groupes de parole une fois par mois avec une psychologue. Nous faisons des formations pour les aidants, deux sessions par an, de 5 séances chacune. Nous faisons des entretiens avec une psychologue. Nous avons tous les mardis après-midi un atelier d'art-thérapie pour les malades. Et là, à chaque fois, les familles disent bah, « il a jamais ou elle n'a jamais aimé dessiner, peindre, c'est pas son truc bah, ». On dit bah, « venez voir et puis vous verrez bien ». Et ils sont surpris de ce que peut faire le malade. Et c'est aussi un autre regard sur la maladie. Avec un malade, on voit toujours ce qu'il ne peut plus faire, ce qui fait mal. Là, on s'aperçoit qu'ils peuvent encore faire des choses, ils peuvent créer et ils développent une hypersensibilité. La caractéristique des malades, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils perdent en capacité cognitive, ce qui passe par le discours, la parole, le raisonnement, va de moins en moins passer par cette rationalité, mais va passer de plus en plus par de la sensibilité, par du toucher, par des gestes, par la musique. C'est pour ça qu'ils sont très sensibles à la musique. Ils sont très sensibles aux enfants, parce qu'avec les enfants, il n'y a pas de discours. Les enfants s'amusent, ils rient, ils chahutent, et ça les amuse beaucoup. Et avec cette hypersensibilité, oblige les aidants aussi à avoir une attitude vis-à-vis du malade qui soit souriante, apaisante. Si l'aidant arrive devant le malade en étant soucieux, les sourcils foncés, parce qu'il a des soucis, tout le monde en a. Le malade, oh là, c'est qu'il y a un danger, il y a un problème. Et donc, le malade peut devenir agressif ou énervé parce qu'il perçoit qu'il y a un danger. Et nous, aidants, on n'a pas toujours conscience des émotions qu'on porte sur notre visage. Alors que si on arrive devant un malade en parlant calmement, en souriant, il va être apaisé, il sera attentif, et il va être dans de meilleures conditions.
Alors, outre, c'est vrai que les difficultés d'accompagnement que vous notez à l'instant là, sur l'accompagnement aux personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, en tant qu'aidant, comment on peut aussi obtenir des ressources en termes de temps, en termes peut-être d'argent, parce que s'occuper de quelqu'un, c'est pas faire autre chose en même temps. Quelles ressources on a en fait?
Déjà, le principe que nous, on donne aux aidants, c'est « protégez-vous ». 30% des aidants décèdent avant le malade. 60% des aidants développent des pathologies liées à leur fonction d'aidant. Ça va être des syndromes dépressifs, ça va être la perte de sommeil, ça va être des obsessions, etc. Et donc, nous, ce qu'on dit aux aidants, préservez votre vie sociale, préservez vos activités de loisirs, le plus possible, évidemment. Mais il peut y avoir une tendance des aidants à se replier autour du malade, à s'isoler. Et donc, plus ils seront isolés, plus ils vont avoir du mal à prendre en charge Or, ils ont besoin de répit, et pour ça, il existe un certain nombre de soutiens, d'associations. Et puis, sur le plan matériel, on les aide aussi dans les démarches, parce qu'on découvre un monde, la perte d'autonomie, qu'on ne connaît pas. Or, il y a des aides. Il y a des aides de la part du département. L'allocation perte d'autonomie, c'est un dossier. C'est un dossier qui va nécessiter qu'une assistante sociale vienne à domicile mesurer la perte d'autonomie. Ça va être... Déjà, la maladie, elle est classée ALD, affection de longue durée. Ce qui fait que tout ce qui est lié au médical est pris en charge à 100%. Ça va être des aides, du COMAL ou autre, pour... adapter le logement, par exemple remplacer la baignoire par une douche pour éviter les chutes.
Cet aménagement, il peut être pris en charge aussi, ou comment ça fonctionne ?
Il y aura des aides pour qu'il soit pris en charge de la part du département. Et il y a aussi des aides auxquelles on ne pense pas souvent, les aidants ne pensent pas souvent, ça va être les aides des caisses de retraite. Il faut savoir que les caisses de retraite ont des fonds d'aide et de soutien, et donc on peut leur expliquer la situation en disant ben, il y a besoin de l'assistance d'une tierce personne, il y a besoin de l'emmener faire ça, il y a besoin de portage de repas à domicile, etc. Donc on ne pense pas souvent, on s'adresse au CLIC, on s'adresse au CCAS de la commune, mais il faut aussi penser aux caisses de retraite qui peuvent apporter une aide et aux mutuelles. Les mutuelles ont également une possibilité de venir en aide pour soulager les dents.
Comment, en local, on peut venir à vous pour vous poser toutes les questions qu'ont les Rémoises, les Rémois? Il y a une façon de vous contacter en particulier?
Donc, il y a un mail, un internet, évidemment, hein, francealzheimermarne@gmail.com. Et il y a un téléphone auquel on répond 24 heures sur 24. On répond, c'est un portable, 06 03 82 34 08.
C'était un retour apporté par Radio Primitive sur la journée des aidants. Nous espérons avoir apporté des réponses concrètes à travers ces interviews et nous remercions les structures d'avoir bien voulu répondre à nos questions. À deux pas de chez toi.
Voir qu'on redonne des sourires, ça fait toujours plaisir.
Votre magazine de reportages, de témoignages, à la découverte de Reims, ses habitants, ses habitantes et de ses alentours.
Faire ce qu'on veut quand on veut.
Vous êtes toujours dans À deux pas de chez toi sur Radio Primitive. Le prochain reportage vous emmène au Foulé Automnal. Le mercredi 22 octobre dernier, il s'en passait des choses au parc Marcel Lemaire, dans le quartier de la Neuvillette. Des enfants se donnaient à 300% sur plusieurs activités organisées par l'ESF Reims Athlétisme, notamment en courant sur une piste tracée avec des rubans juste pour la journée.
Tu nous présentes ce qui se fait, c'est de 14h à 16h déjà.
14h à 16h, oui. Donc il y a des petites courses pour Halloween. Et là, en attendant les courses, du coup, qui débuteront à 16h jusqu'à 19h, sur des petites boucles périmétrées et tout. Là, on a des petits ateliers dans le sprint. C'est celui que les enfants aiment le plus. C'est une course sur 40 mètres et ils courent le plus vite possible. Là, on a un petit parcours de haies où ils doivent aller sous forme de relais. Ils doivent aller jusqu'au bout en passant les haies. Et là-bas, il y a un petit lancer de mincing ball. Donc, c'est une petite balle lestée de 1 kg. Ils doivent le lancer sur une pente et ils redescendent. C'est vraiment une mini-initiation pour les occuper et pour qu'ils s'amusent. Ils prennent que du plaisir.
Pendant les vacances.
Pendant les vacances, exactement.
Toi, tu es à l'espoir ?
Oui, je suis arrivée il y a 3 ans et demi, 4 ans. Et je connaissais déjà un peu l'athlétisme. J'en faisais pas en club encore quand j'étais au collège et je me suis décidée de me lancer arriver au lycée. Je suis arrivée depuis, je kiffe ma vie et je suis toujours à l'ESRA du coup.
Du coup, c'est la course de vitesse qui te plaît le plus encore ou t'as
oui, changé? Moi je suis en sprint, j'ai débuté en sprint court 100 et 200 et là j'ai bougé sur le sprint low, ce que je pensais jamais faire. Et du coup là je suis plus sur du 400 et 800.
Est-ce que vous voulez faire?
C'est beau, c'est une belle entente, on s'entend tous bien franchement. Tant qu'on est passionné, tout cool, vraiment. Toujours prendre du plaisir.
Les enfants étaient donc bien accompagnés par des passionnés comme cette jeune femme. Et vous allez l'entendre, c'était effectivement un bel amusement pour ces jeunes qui font partie de la maison de quartier Trois Fontaines. situé à quelques centaines de mètres du parc où avait lieu l'activité.
Allez, Talanda, allez, allez, allez,
allez,
allez, les encouragements, les enfants.
Allez,
allez, allez, allez, on encourage, on t'attend.
Alors, t'avais déjà fait, c'est ça?
Oui, bah je fais du triathlon.
Ah, bah voilà. Ouais, comment on fait pour courir bien?
Bah moi, je sais courir.
C'est quoi ton petit secret, toi?
Bah moi, je suis habituée. Moi, je fais régulièrement de la course, déjà.
Ouais.
Puis la course, c'est très bien. Déjà, pour un peu se muscler, des fois. Et surtout, ne pas manger de sucrerie ou je sais pas.
Ouais.
Moi, je...
Tu fais attention, toi?
Oui.
Ce n'était pas la seule animation proposée sur cette foulée automnale. Monsieur Houry, de l'ESF Reims Athlétisme, nous parle du projet en globalité mis en place avec la ville de Reims.
Alors, ça s'appelle les étapes rémoises. L'idée, c'est de proposer à chaque saison une épreuve sur une course dans un quartier de Reims. Donc, c'est anciennement les corridas de quartier qu'on faisait. L'année dernière, on avait fait la Nuvillette fait sa course. Et là, c'est l'étape automnale qui se déroule au parc Marcel Lemaire. Et puis, le 25 février, on sera à l'hippodrome de Reims pour les foulées hivernales. Et au mois de mai, pour l'étape les foulées printanières, on sera au stade Georges Hébert.
À chaque fois, ça permet de varier le public. Là, je vois, il y a des enfants qui sont venus déjà pour le début de journée faire des petits ateliers.
Oui, on va proposer avant les épreuves, on propose des ateliers athlétiques. On a un mini stade, donc on propose que les enfants viennent découvrir l'athlétisme. Et puis après, s'ils veulent poursuivre avec une épreuve, donc il y aura un 6 minutes pour les plus petits, il y aura un 1000 mètres pour les un peu plus grands, pour les plus grands, il y aura un 2000, et puis pour les adultes, il y aura une course de 5 km.
Et là aussi, sur ces événements-là, comme aujourd'hui, il y a plusieurs courses en fait qui ont lieu, c'est ça?
Oui, oui.
Des départs différés.
Il y a à partir de 16h30, on va proposer différentes courses pour tous les âges.
L'idée, c'est quoi? On peut venir sans avoir déjà testé
On peut venir, voilà. L'idée, c'est de promouvoir l'athlétisme, la course à pied, et puis faire du sport, l'activité physique en général.
Pourquoi vous avez décidé de mener cette action-là avec la ville de Reims en particulier?
On est partenaire de la ville depuis de nombreuses années. Avant, c'était les corridas. On avait la corrida d'Orgeval, la corrida de Wilson, la corrida de Croix-Rouge. Ben là, on a voulu changer un petit peu le nom des épreuves, et puis que ça soit un fil rouge tout au long de l'année. Voilà, c'est pas permettre de plus cibler avec Raphaël Blanchard, avec la direction des sports. Voilà, ça permet de plus flécher nos épreuves et avoir un peu plus de visibilité.
Là, c'est les vacances scolaires. À chaque fois, c'est donné durant des vacances scolaires. C'est l'idée aussi.
Ouais, ça sera alors la prochaine, ça sera la deuxième semaine des vacances de février, le 25 février, donc à l'hippodrome. Et puis nous, on propose des stages pour les plus jeunes. À chaque première semaine des vacances, on propose un stage athlée découverte, donc qui est ouvert à tout le monde.
Ok, et ça peut aussi être, comme vous le disiez tout à l'heure, un pied d'entrée à l'ESFRA. À l'ESFRA, il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de
Voilà, oui, nous, c'est tout au long de la semaine, hein, on propose des activités soit pour les plus jeunes, soit pour les adultes, pour la compétition, pour le loisir, pour le sport santé. Voilà, on propose tout au long de la semaine, du lundi jusqu'au dimanche, on propose des activités pour tous.
De la joie comme celle d'être en plein air, de se dépenser en découvrant des activités comme la course de vitesse avec un écran qui affichait en plus le résultat que les coureurs faisaient sur un sprint. Et parfois, il y avait aussi de petites déceptions.
Il n'a pas capté quand je suis partie.
Ah mince, t'es trop rapide en fait.
Non, il n'a pas capté, du coup. Il n'a pas capté et du coup j'ai dû revenir.
Renseignez-vous auprès de l'ESF Reims Athlétisme pour pouvoir participer à la prochaine foulée qui sera donc hivernale dans le cadre des étapes rémoises. À deux pas de chez toi,